Virgile, Géorgique, livre 4. L'épouse d'Orphée, Eurydice, est aux enfers. Grâce au son mélodieux de sa lyre, Orphée est autorisé à la ramener au jour, à condition de ne pas se retourner. Orphée, consolant son douloureux amour sur la creuse écaille de sa lyre, c'est toi qu'il chantait, douce épouse, seul avec lui-même sur le rivage solitaire, toi qu'il chantait à la venue du jour, toi qu'il chantait quand le jour s'éloignait. Il entra même aux gorges du Thénard, porte profonde d'Eudysse, et dans le bois obscur à la noire épouvante, et il aborda Hélémane, leur droit redoutable, et ses cœurs qui ne savent pas s'attendrir aux prières humaines. Alors, ému par ses chants, du fond des séjours de l'Érèbe, on put voir s'avancer les ombres minces, les fantômes des êtres qui ne voient plus la lumière, aussi nombreux que les milliers d'oiseaux qui se cachent dans les feuilles, quand le soir ou une pluie d'orage les chasse des montagnes. Des mères, des maris, des corps de héros magnanimes qui se sont acquittés de la vie, des enfants, des jeunes filles qui ne connurent point les noces, des jeunes gens mis sur des bûchers devant les yeux de leurs parents, autour de qui s'étendent le limon noir et le hideux roseau du Cocyte, et le marais détesté avec son nom de paresseuse qui les enserre, et le Styx qui 9 fois les enferme dans ses plis. Bien plus la stupeur saisit les demeures elles-mêmes et les profondeurs tartariennes de la mort, et les Euménides aux cheveux entrelacés de serpents d'azur, Cerbère retint béant ses 3 gueules, et la rudiction s'arrêta avec le vent qui la faisait tourner. Déjà, revenant sur ses pas, il avait échappé à tous les périls, et Eurydice, lui étant rendue, s'en venait au souffle d'en haut, en marchant derrière son mari, car telle était la loi fixée par Proserpine, quand un accès de démence subite s'empara de l'imprudent amant, démence bien pardonnable, si les mânes ne savaient pardonner, il s'arrêta, et juste au moment où son Eurydice arrivait à la lumière, oubliant tout, hélas, et vaincu dans son âme, il se tourna pour la regarder. Sur le champ, tout son effort s'écroula, et son pacte avec le cruel tyran fut rompu, et 3 fois, un bruit éclatant se fit entendre aux étangs de l'Averne. Elle, alors, « Quel est donc, dit-elle, cet accès de folie qui m'a perdue malheureuse que je suis ?» Et qui t'a perdu, toi, Orphée, quel est ce grand accès de folie? Ah, voici que pour la 2e fois les destins cruels me rappellent en arrière, et que le sommeil ferme mes yeux flottants. Adieu, à présent. Je suis emporté dans la nuit immense qui m'entoure, et je tends des paumes sans force, moi, hélas, qui ne suis plus tienne. Elle dit... Et loin de ses yeux, tout à coup, comme une fumée mêlée aux brises ténues, elle s'enfuit dans la direction opposée, et il eut beau tenter de saisir les ombres, beau vouloir lui parler encore, il ne la vit plus, et le nocher de l'Orcus ne le laissa plus franchir le marais qui la séparait d'elle. Que faire? Où porter ses pas, après s'être vu 2 fois ravir son épouse? Par quels pleurs émouvoir les mânes, par quelles paroles les divinités? Elle, déjà froide, voguait dans la barque stygienne. On compte qu'il pleura durant 7 mois entiers sous une roche aérienne, au bord du strimone désert, charmant les tigres et entraînant les chênes avec son chant. Telle, sous l'ombre d'un peuplier, la plaintive Philomèle gémit sur la perte de ses petits, qu'un doux laboureur aux aguets arrachés de leur nid alors qu'ils n'avaient point encore de plumes. Elle passe la nuit à pleurer et, posée sur une branche, elle recommence son chant lamentable et de ses plaintes douloureuses emplit au loin l'espace. Ni Vénus, ni aucun hymen ne fléchirent son cœur, seul, errant à travers les glaces hyperboréennes, et le Tanaïs neigeux, et les guérets du Riffé, que les frimas ne désertent jamais. Il pleurait, Eurydice perdue, et les dons inutiles de Dis. Les mères des Cicones, voyant dans cet hommage une marque de mépris, déchirèrent le jeune homme au milieu des sacrifices offerts aux dieux et des orgies du Bacchus nocturne, et dispersèrent au loin dans les champs ses membres en lambeaux. Même alors, comme sa tête arrachée de son col de marbre roulait au milieu du gouffre, emportée par l'air le grien, « Eurydice !» criait encore sa voix et sa langue glacée. « Ah ! Malheureuse Eurydice !» Tandis que sa vie fuyait, et tout le long du fleuve, les rives répétaient en écho « Eurydice !»